Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, selamat malam, comment allez-vous, apa kabar? Tout le monde, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présenterons le rappel de titre. Chers juristes solitaires, n'oubliez pas, pour la rubrique suivante, après les informations, c'est bien sûr, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'Indonésie, ou bien apprendre la langue indonésienne. Et comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction ou magazine de musique. Et après, voilà, c'est tout de notre émission. Bon, chers juristes auditeurs de la voix de l'Indonésie, écoutez maintenant le premier programme, les actualités du jour.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo visitera l'Union européenne pour renforcer la coopération. L'Indonésie encouragera les efforts de l'intensification de la solidarité au sommet de l'OCI. Le Parlement de la République d'Indonésie soutient l'indépendance palestinienne. Les tarifs de l'importation et l'obstacle des produits alimentaires indonésiens en Égypte. Des produits alimentaires et boissons de l'Indonésie ont reçu beaucoup de profits en Égypte. Et enfin, l'Indonésie cible le marché serbe. Voici le journal complet. Afin de répondre à l'invitation des dirigeants des pays européens, le président indonésien Joko Widodo fera une visite de travail à certains pays européens, tels que l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Cette visite sera commencée le 18 avril et finira le 22 avril. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a expliqué lundi à Jakarta que la visite du président Joko Widodo en Europe visait à renforcer la coopération des deux pays, notamment dans les domaines de l'économie et de la lutte contre le terrorisme.
Penekanan kerjasama ekonomi ini akan tampak sekali di dalam kunjungan presiden ke Eropa kali ini.
L'accent de cette coopération économique apparaîtra dans la visite du président en Europe cette fois, y compris les questions liées au commerce, l'investissement et maritime. Outre la question de la coopération économique, il s'agit du renforcement de la coopération dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Et en même temps, il a également souligné l'importance de continuer à renforcer la tolérance. En outre, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a expliqué qu'en plus des réunions bilatérales avec les quatre pays de l'Union européenne, le président Joko Widodo rencontrera également avec l'Union européenne. Selon la ministre Retno, pour la première fois, le président Joko Widodo effectuera des réunions séparées avec trois présidents de l'Union européenne, à savoir le président du Conseil européen, le président du Parlement européen et le président de la Commission européenne. Le gouvernement indonésien encouragera l'importance de la solidarité des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, dans la mise en œuvre du sommet de l'OCI qui se tiendra les 15 et 16 avril à Istanbul, en Turquie. Cela a été affirmé par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans un communiqué de presse lundi à Jakarta. En outre, selon la ministre Retno, l'Indonésie soulignera également l'importance de l'OCI comme une organisation mondiale pour prioriser les valeurs de tolérance et de prouver l'islam comme religion pacificateur. En outre, selon elle, l'Indonésie, dans le sommet de l'OCI, encouragera également l'importance de la coopération économique entre les pays membres de l'OCI.
Beberapa isu pokok yang akan disampaikan di dalam statement nasional Indonesia di dalam KTT OKI tersebut.
Certaines questions clés qui seront présentées dans la déclaration nationale de l'Indonésie au sommet de l'OCI est la première, une réaffirmation de l'importance de la solidité de l'OCI à résoudre une variété de nouveaux défis. La seconde est de souligner l'importance de l'OCI comme agent apportant des valeurs tolérantes et l'islam qui apporte des bénédictions et la prospérité pour tout dans tout l'univers. Et les questions seront également apportées par la délégation indonésienne au sommet étaient les questions de l'importance de la coopération économique au sein de l'OCI. Le troisième sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI à Istanbul a pour thème l'unité et la solidarité pour la justice et la paix. La ministre Retno Marsudi a affirmé que le sommet de l'OCI produira plusieurs documents, entre autres un document de renforcement de la coopération entre les pays membres de l'OCI et l'exposition des questions des défis du monde islamique actuellement. En outre, selon Mme Retno, le sommet de l'OCI serait capable de produire un programme de travail de l'OCI au cours des 10 prochaines années qui couvriront divers domaines de coopération. Le président du Parlement de la République d'Indonésie, Ade Komarudin, a déclaré que l'engagement de l'Indonésie pour soutenir l'indépendance d'un État palestinien était incontestable. Ade Komarudin a reçu la délégation de l'association parlementaire Al-Quds dirigée par Hamid Abdullah Al-Ahmar lundi à Jakarta. La liberté des Palestiniens doit être combattue continuellement. La délégation de l'association parlementaire d'Al-Quds invite le Parlement de l'Indonésie à assister à une réunion du Parlement islamique à Istanbul, en Turquie, le 4 novembre 2016, qui discutera de l'indépendance palestinienne. Cependant, Hamid Abdullah Al-Ahmar a confirmé qu'il continuerait de lutter pour l'indépendance de la Palestine. Il ne laissera pas les Palestiniens continuer à être occupés par l'Israël. Le chef d'entreprise ad interim de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Mary Binsar Simurangkil, a déclaré que jusqu'à présent, il y avait encore quelques obstacles rencontrés par les producteurs alimentaires et des boissons de l'Indonésie pour entrer sur le marché égyptien. Selon Mary Binsar Simurangkir, l'un des obstacles commerciaux de l'Indonésie à l'Égypte est les droits d'importation élevés qui atteignent 40%. Par conséquent, le gouvernement indonésien propose aux entrepreneurs de produire dans la zone libre autour du canal de Suez. Il a ajouté que la production dans la zone libre a reçu le feu vert du gouvernement égyptien. Le gouvernement égyptien a conseillé le gouvernement indonésien pour faire la production dans la zone libre. Si la production peut être réalisée dans la zone libre, le produit résultant peut également être exporté vers les pays des principaux partenaires commerciaux de l'Égypte. Ainsi, les exportations d'Indonésie à l'Égypte augmenteront. Le directeur général de l'expansion des exportations nationales du ministère du Commerce, Nuzulia Ishak, a déclaré que les produits alimentaires et de boissons indonésiennes ont reçu la transaction à 7,95 millions de dollars américains dans la foire internationale du Caire récemment. Nuzulia Ishak a déclaré lundi à Jakarta que les produits alimentaires et de boissons ont dominé les transactions dans l'exposition qui a atteint 83%. La transaction cette année a augmenté 29,23% par rapport à l'année dernière. Dans l'exposition, les produits d'exportation indonésiens se concentrent sur les produits alimentaires et de boissons. Ces produits sont très nécessaires sur le marché égyptien. La participation de l'Indonésie à cette exposition est l'effort pour accroître l'accès au marché et introduire la diversification des produits indonésiens à l'Égypte. Le gouvernement indonésien étudie le potentiel de marché des produits nationaux en Serbie par le biais du troisième forum de consultants bilatéraux entre le ministère indonésien des Affaires étrangères et le ministère des Affaires étrangères de la Serbie à Belgrade, tenu le 7 avril 2016. L'ambassadeur de l'Indonésie à la République de Serbie, Hari R.J. Kandu, cité par Antara, a déclaré que le forum de consultants bilatéraux était un moyen pour générer la coopération bilatérale, dont l'impact pourrait être ressenti par le peuple. Ce forum est une réunion périodique menée par le ministère des Affaires étrangères des deux pays pour discuter de la coopération dans la politique, l'économie, le commerce, l'investissement et socio-culturel entre l'Indonésie et la Serbie. Sergita, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cinquième antenne pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire et pour le titre. Il faut être prudent pour résoudre les problèmes des otages aux Philippines. Les nouvelles sur 10 citoyens indonésiens pris en otage par le groupe Abu Sayyaf aux Philippines est très alarmante. Jusqu'à présent, il n'y a aucune certitude sur leur sort. Bien qu'ils soient très prêts, les forces de sécurité indonésiennes, en particulier l'armée nationale indonésienne, TNI, ne peuvent pas agir immédiatement de libérer les otages parce que le gouvernement philippin a refusé l'aide de l'Indonésie. Le ministre indonésien de la Défense, Riamizat Riyakudu, a déclaré que TNI était plus prête pour libérer des otages, mais il y a des règles à entrer sur le territoire. Depuis le contact armé entre l'armée philippine avec le groupe d'Abu Sayyaf sur l'île Basilan récemment, le ministère indonésien des Affaires étrangères a plus intensifié la communication avec le gouvernement philippin. Le conflit armé a provoqué 18 personnes mortes de l'armée philippine, mais selon l'information du ministre philippin des Affaires étrangères, José René de Almendra, 10 citoyens indonésiens qui sont retenus en otage à Basilan n'est pas à Basilan et la condition était en bon état. L'île de Basilan est l'un des 3 endroits où la base, le groupe d'Abu Sayyaf, qui est également connu sous le nom Al-Harakat al-Islamiyah, se trouve. 2 autres îles sont Jolo et Mindanao. Selon le rapport, ce groupe élargit son réseau à la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie. Libérer les otages n'est pas une question simple, car il doit considérer leurs aspects de sécurité. Mais payer la rançon n'était pas une bonne option, car cela signifie que nous avons perdu contre les terroristes et nous sommes victimes de leur extorsion. Jusqu'à présent, le gouvernement indonésien a confié la solution du problème des otages au gouvernement philippin en continuant bien sûr à communiquer avec les différentes parties pour obtenir la meilleure solution. En outre, en dépit d'être très près, TNI ne peut pas se précipiter dans le territoire philippin pour libérer les otages. L'Indonésie devrait certainement respecter les Philippines en tant qu'État souverain de l'ASEAN qui ne serait pas tout simplement laissé des troupes étrangères opérant dans le pays. En effet, la sécurité des 10 citoyens indonésiens qui ont été pris en otage est de la plus grande importance. Donc, la prudence est nécessaire pour résoudre cette question. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 2 avril 1931, le peuple espagnol a rejeté le royaume. À cette date, on a été organisé des élections qui produisent peu de voix pour le gouvernement monarchique ou le royaume. En conséquence, le roi Alfonso XIII doit démissionner et 2 heures plus tard se tenait le gouvernement républicain en Espagne. Mais en 1936, la force du royaume sous la direction du général Francisco Franco a mené une guerre contre les forces de la République. 2 ans et demi plus tard, le général Franco et ses troupes gagnent et le système étatique de l'Espagne a retourné à la forme du royaume. Le 2 avril 1961, le premier vol dans l'espace. Yuri Gagarin, un cosmonaute russe âgé de 27 ans, a fait l'histoire en devenant le premier homme à voyager dans l'espace en utilisant la navette Vostok 1. Dans 89 minutes, Vostok 1 a réussi à quitter la Terre et voyager autour de la planète. Avant de conduire la navette, Yuri Gagarin était le pilote de chasse. Le 2 avril 1981, le lancement de la navette spatiale Columbia de Cap Canaveral en Floride. Columbia prend 54 heures de vol à partir de 36 orbites avant d'atterrir au siège de la force aérienne Edward en Californie le 14 avril. La belle époque de Britannique a pris fin le 1er février 2003 lorsqu'il a fait la 20e mission. Il fasse la désintégration lors de réentrée dans l'atmosphère de Terre. 7 astronautes qui ont participé au vol sont morts. En conséquence, le programme de vaisseau spatial a été reporté jusqu'à ce que Discovery a été lancé en juillet 2005. À cette époque-là, le problème lié à la chute de Columbia n'est pas encore complètement résolu. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'examen national basé sur l'ordinateur en Indonésie se déroule bien ». 3 millions lycéens, y compris les écoles professionnelles ou SMK et le lycée islamique ou le madrasah aliyah en Indonésie, ont participé à l'examen national qui a été commencé le lundi 4 avril 2016. Environ 927 000 étudiants subissent un examen national informatisé avec le système semi-ligne ou UNBK. Le ministre de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie, M. Anies Baswedan, a déclaré jeudi à Jakarta que le programme examen national informatisé était le succès, bien qu'il existe quelques domaines de préoccupation tels que l'ordinateur, l'électricité et le réseau d'Internet. Les participants de l'examen national 2016 ont augmenté par rapport à l'année dernière. En 2015, seulement 107 000 étudiants. En 2016, ont augmenté à 921 000 étudiants. Il est engagé à augmenter le nombre d'étudiants qui ont pris l'examen national dans la prochaine année, y compris la préparation de l'infrastructure. La commission 10 du Parlement de la République d'Indonésie apprécie des régions qui ont fait l'examen national informatisé. Le membre de la commission 10 du Parlement, M. Ferdiansyah, qui a participé à la surveillance de l'examen national à Java East, a déclaré qu'il n'y avait pas de problème important dans la mise en œuvre de cet examen. On estime l'examen national informatisé apporte des choses positives, plus honnêtes, transparentes et simples, et aussi une façon pour les étudiants de faire face au progrès technologique et face à la communauté économique de l'ASEAN. Cependant, Esti Wijayanti, le membre de la commission 10, cible tous les lycéens et les écoles secondaires dans diverses régions en Indonésie peuvent organiser l'examen national informatisé en 2017. Pour atteindre cet objectif, le budget de l'éducation de 2017 doit être augmenté. Le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Anies Baswedan, veut maintenir la qualité de l'examen. Par conséquent, il est nécessaire l'audit de performance pour maintenir la qualité des ressources humaines et de l'infrastructure. Selon le ministre Anies, le gouvernement n'a pas d'objectif de l'expansion de l'examen national informatisé à d'autres écoles qui utilisent encore les examens utilisant le papier. Mais le gouvernement est maintenant plus axé sur le maintien de la qualité. La préparation de l'utilisation de l'examen informatisé ne se concentre pas seulement sur les grandes villes. Tout dépend de l'état de préparation du secteur éducatif par région. C'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Afin de répondre à l'invitation des dirigeants des pays européens, le président indonésien Joko Widodo fera une visite de travail à certains pays européens, tels que l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Cette visite sera commencée le 18 avril et finira le 22 avril. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a expliqué lundi à Jakarta que la visite du président Joko Widodo en Europe visait à renforcer la coopération des deux pays, notamment dans les domaines de l'économie et de la lutte contre le terrorisme.
Penekanan kerjasama ekonomi ini akan tampak sekali di dalam kunjungan presiden ke Eropa kali ini.
L'accent de cette coopération économique apparaîtra dans la visite du président en Europe cette fois, y compris les questions liées au commerce, l'investissement et maritime. Outre la question de la coopération économique, il s'agit du renforcement de la coopération dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Et en même temps, il a également souligné l'importance de continuer à renforcer la tolérance. En outre, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a expliqué qu'en plus des réunions bilatérales avec les quatre pays de l'Union européenne, le président Joko Widodo rencontrera également avec l'Union européenne. Selon la ministre Retno, pour la première fois, le président Joko Widodo effectuera des réunions séparées avec trois présidents de l'Union européenne, à savoir le président du Conseil européen, le président du Parlement européen et le président de la Commission européenne. Le gouvernement indonésien encouragera l'importance de la solidarité des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, dans la mise en œuvre du sommet de l'OCI qui se tiendra les 15 et 16 avril à Istanbul, en Turquie. Cela a été affirmé par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, dans un communiqué de presse lundi à Jakarta. En outre, selon la ministre Retno, l'Indonésie soulignera également l'importance de l'OCI comme une organisation mondiale pour prioriser les valeurs de tolérance et de prouver l'islam comme religion pacificateur. En outre, selon elle, l'Indonésie, dans le sommet de l'OCI, encouragera également l'importance de la coopération économique entre les pays membres de l'OCI.
Beberapa isu pokok yang akan disampaikan di dalam statement nasional Indonesia di dalam KTT OKI tersebut.
Certaines questions clés qui seront présentées dans la déclaration nationale de l'Indonésie au sommet de l'OCI est la première, une réaffirmation de l'importance de la solidité de l'OCI à résoudre une variété de nouveaux défis. La seconde est de souligner l'importance de l'OCI comme agent apportant des valeurs tolérantes et l'islam qui apporte des bénédictions et la prospérité pour tout dans tout l'univers. Et les questions seront également apportées par la délégation indonésienne au sommet étaient les questions de l'importance de la coopération économique au sein de l'OCI. Le troisième sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI à Istanbul a pour thème l'unité et la solidarité pour la justice et la paix. La ministre Retno LP Marsudi a affirmé que le sommet de l'OCI produira plusieurs documents, entre autres un document de renforcement de la coopération entre les pays membres de l'OCI et l'exposition des questions des défis du monde islamique actuellement. En outre, selon Mme Retno, le sommet de l'OCI serait capable de produire un programme de travail de l'OCI au cours des 10 prochaines années qui couvriront divers domaines de coopération. Le président du Parlement de la République d'Indonésie, Ade Komarudin, a déclaré que l'engagement de l'Indonésie pour soutenir l'indépendance d'un État palestinien était incontestable. Ade Komarudin a reçu la délégation de l'association parlementaire Al-Quds, dirigée par Hamed Abdullah Al-Ahmar, lundi à Jakarta. La liberté des Palestiniens doit être combattue continuellement. La délégation de l'association parlementaire d'Al-Quds invite le Parlement de l'Indonésie à assister à une réunion du Parlement islamique à Istanbul, en Turquie, le 4 novembre 2016, qui discutera de l'indépendance palestinienne. Cependant, Hamid Abdullah Al-Ahmar a confirmé qu'il continuerait de lutter pour l'indépendance de la Palestine. Il ne laissera pas les Palestiniens continuer à être occupés par l'Israël. Le chef d'entreprise ad interim de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Mary Binsar Simurankil, a déclaré que jusqu'à présent, il y avait encore quelques obstacles rencontrés par les producteurs alimentaires et des boissons de l'Indonésie pour entrer sur le marché égyptien. Selon Mary Binsar Simurankir, l'un des obstacles commerciaux de l'Indonésie à l'Égypte est les droits d'importation élevés qui atteint 40%. Par conséquent, le gouvernement indonésien propose aux entrepreneurs de produire dans la zone libre autour du canal de Suez. Il ajoutait que la production dans la zone libre a reçu le feu vert du gouvernement égyptien. Le gouvernement égyptien a conseillé le gouvernement indonésien pour faire la production dans la zone libre. Si la production peut être réalisée dans la zone libre, le produit résultant peut également être exporté vers les pays des principaux partenaires commerciaux de l'Égypte. Ainsi, les exportations d'Indonésie à l'Égypte augmenteront. Le directeur général de l'expansion des exportations nationales du ministère du Commerce, Nuzulia Ishak, a déclaré que les produits alimentaires et de boissons indonésiennes ont reçu la transaction à 7,95 millions de dollars américains dans la foire internationale du Caire récemment. Nuzulia Ishak a déclaré lundi à Jakarta que les produits alimentaires et de boissons ont dominé les transactions dans l'exposition qui a atteint 83%. La transaction cette année a augmenté 29,23% par rapport à l'année dernière. Dans l'exposition, les produits d'exportation indonésiens se concentrent sur les produits alimentaires et de boissons. Ces produits sont très nécessaires sur le marché égyptien. La participation de l'Indonésie à cette exposition est l'effort pour accroître l'accès au marché et introduire la diversification des produits indonésiens à l'Égypte. Le gouvernement indonésien étudie le potentiel de marché des produits nationaux en Serbie par le biais du troisième forum de consultants bilatéraux entre le ministère indonésien des Affaires étrangères et le ministère des Affaires étrangères de la Serbie à Belgrade, tenu le 7 avril 2016. L'ambassadeur de l'Indonésie à la République de Serbie, Hari R.J. Kandu, cité par Antara, a déclaré que le forum de consultants bilatéraux était un moyen pour générer la coopération bilatérale, dont l'impact pourrait être ressenti par le peuple. Ce forum est une réunion périodique menée par le ministère des Affaires étrangères des deux pays pour discuter de la coopération dans la politique, l'économie, le commerce, l'investissement et socio-culturel entre l'Indonésie et la Serbie. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie, vous avez écouté tout à l'heure les informations avec les actualités du jour et aussi l'histoire aujourd'hui, le mise au point et le commentaire. Et maintenant, c'est la rubrique suivante, écoutez la rubrique de la culture ou Persona Indonesia.
l'actualité, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter le village touristique de Praia Liu, près de la village Oingapu dans la province de Nusa Tenggara Est. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix d'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de l'encoute, 9525 kHz, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de streaming à www.voi.co.id. Praia Liu est un joli village près de la ville Waingapu, département de Sumba Est, province de Nusa Tenggara Est, qui maintient toujours ses valeurs traditionnelles. Praia Liu se trouve dans le banlieue à Waingapu, Sumba Est, ou environ 2 km de quartier commerçant de Waingapu. La spécificité de ce village touristique est marquée par l'existence des maisons traditionnelles nommées Uma Batang ou Uma Oril. Il est également le site de tombes mégalithiques appelées Reti de statues ou Penji et de certains objets archéologiques qui sont conservés. Il est enfin célèbre pour les foulards et le sarong fabriqués par tissage de type ikat qui ajoutent à la richesse culturelle de ce village. Avec toute sa richesse culturelle, Praia Liu devient un des villages touristiques phares de la province de Nusa Tenggara Est. Allez au village touristique, vous serez invité à manger de veille de betel. Le betel est un aliment obligatoire pour les visiteurs dans le village Praia Liu. Toutefois, si vous ne souhaitez pas en manger, vous ne seriez pas obligé de le manger. Mais si vous voulez réfugier, faites-le poliment par respect pour les habitudes de la population locale. Ici, vous verrez les maisons traditionnelles avec architecture haute et des toits de feuilles. La maison traditionnelle de village Praia Liu comporte de trois sections représentant la cosmologie locale. La partie souterrain comme la maison de mort, le centre de la maison pour vivre et une partie du toit qui est la maison de Dieu. Outre les maisons traditionnelles, Praia Liu possède aussi un nombre de tombeaux antiques remplis de sculptures. Vous pourrez également trouver ici le tissage traditionnel connu et voir le processus de tissage ici. Et on peut voir les mères qui sont en train de tisser. Elles peuvent vous expliquer la façon de tisser et de teindre le fil avec des colorants naturels. N'oubliez pas d'acheter des tissus et des produits tissés qui constituent la caractéristique du village de Praia Liu. Si vous visitez Praia Liu, n'oubliez pas d'admirer la jolie savane herbeuse qui complétera votre aventure à Nusa Tenggara Est. Pour vous rendre au village de Praia Liu, il y a un vol de Kupang, la capitale de Nusa Tenggara Est, vers l'aéroport de Waingapu. Vous pouvez aussi prendre un transport maritime. Il y a un ferry qui dessert Waingapu à partir de Kupang. Bien. Bien, chers amis, c'était la rubrique de magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir. Chers auditeurs, auditeurs de la voix de l'Indonésie en Angleterre, après avoir écouté la rubrique de magazine culturel, maintenant c'est le tour de rubrique suivante, c'est apprendre la langue indonésienne.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonsoir tout le monde, retrouvons-nous de nouveau dans l'émission Apprendre l'indonésien. Dans l'édition cette fois, nous vous présentons une conversation intitulée Saya kehilangan jam tangan ou en français J'ai perdu ma montre. Je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et les expressions liées au thème d'aujourd'hui. Je dirai chacun deux fois et vous devrez le répéter après moi. Jam tangan. Jam tangan. En français, la montre. Sekarang. Sekarang. En français, maintenant. Tidak ada. Tidak ada. En français, il n'y a pas. Yakin. Yakin. En français, sur. Memakai. Memakai. En français, porter. Cadeau. Cadeau. En français, cadeau. Sahabat. Sahabat. En français, ami. Favorite. Favorite. En français, favori. Anka. Anka. En français, chiffre. Agak besar. Agak besar. En français, assez grand. Lihat. Lihat. En français, regarder ou voir. Jelas. Jelas. En français, clair. Kacamata. Kacamata. En français, lunette. Periksa. Periksa. En français, vérifier. Mobile. Mobile. En français, voiture. Mungkin. Mungkin. En français, peut-être. Jatuh. Jatuh. En français, tomber. Hilang. Hilang. En français, perdre. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation intitulé Saya kehilangan jam tangan ou en français J'ai perdu ma montre. Comme d'habitude, je dirai le dialogue phrase par phrase deux fois lentement. Vous pouvez suivre après moi. Cette conversation est entre Anna A et Nita B dans le bureau. A. Nita, mengapa kamu kelihatan bingung? A. Nita, mengapa kamu kelihatan bingung? En français, Nita, pourquoi avez-vous semblé confus? B. Saya kehilangan jam tangan. Saya kehilangan jam tangan. En français, j'ai perdu ma montre. B. Seingat saya, tadi saya memakai jam tangan. Seingat saya, tadi saya memakai jam tangan. En français, je me souviens que je portais une montre. Tetapi sekarang tidak ada. Tetapi sekarang tidak ada. En français, mais maintenant il n'y en a pas. A. Apakah kamu yakin tadi memakai jam tangan? A. Apakah kamu yakin tadi memakai jam tangan? En français, êtes-vous sûr que vous aviez apporté une montre? B. Ya, saya sangat yakin memakai jam tangan. B. Ya, saya sangat yakin memakai jam tangan. En français, oui, je suis sûr, j'ai porté la montre. Jam tangan itu adalah kado dari sahabat saya. Jam tangan itu adalah kado dari sahabat saya. En français, cette montre est le cadeau de mon ami. Itu jam tangan favorit saya. Itu jam tangan favorit saya. En français, elle est ma montre préférée. Karena angkanya agak besar. Karena angkanya agak besar. En français, parce que les chiffres sont assez grands. Sehingga dapat dilihat dengan jelas tanpa kacamata. Sehingga dapat dilihat dengan jelas tanpa kacamata. En français, donc on peut voir clairement sans lunettes. A. Coba kamu periksa di mobil. Mungkin jatuh di mobil. A. Coba kamu periksa di mobil. Mungkin jatuh di mobil. En français, essayez de vérifier dans la voiture. Peut-être la lunette est tombée dans la voiture. B. Semoga jam tangan itu tidak hilang. B. Semoga jam tangan itu tidak hilang. En français, espérons que la montre n'est pas perdue.
Chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous.
Chers juridis auditeur de la Voix de l'Indonésie Nantier, vous avez écouté tout à l'heure la langue ou bien apprendre la langue indonésienne. Et la dernière, c'est le magazine de musique.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteurs de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je vous présente un chanteur de pop nommé Didi Kempot. Bon, serviteur, voici sa première chanson intitulée « Ancienne église ». Bonne écoute.
Sama di samping.
Seguita, c'était la chanson de Didi Kempot intitulée Ancienne Église. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ce.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Didi Prasetyo, ou mieux connu comme Didi Kempot, a commencé sa carrière en tant que chanteur de Champursari au centre de Java. Champursari est un mélange de la musique ronchon et la musique dangdut. Didi Kempot, le fils d'un célèbre défunt comédien, Ranto Edi Gudel, mieux connu sous le nom de Mbah Ranto. Dans le centre de Java, Didi Kempot est un chanteur fier de la ville de Solo. En plus d'autres chanteurs fiers comme Gesang, maestro de Kronchon, et Tia, champion de concours de chant AFI. À l'heure actuelle, Didi Kempot préfère rester dans le quartier Sumber à Solo, le centre de Java. Bon, serviteurs, voici la chanson suivante de Didi Kempot intitulée « Le long de la rue mémoire ». Bonne écoute.
Oh,
Fidèle auditeur auditrice, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur de pop, Didi Kempot. Grâce à sa lutte et sa persévérance, Didi Kempot a finalement gagné son rêve de devenir un chanteur célèbre à Jakarta qui chante spécialement des chansons kroncong mélangées avec la musique campursari. Enfin, Didi Kempot n'est pas seulement connu dans le pays, mais à des pays étrangers comme le Suriname et il a invité à faire le concert là-bas. Il s'avère que la diaspora javanaise au Suriname conserve encore le patrimoine culturel et les traditions ancestrales dans leur vie quotidienne. Donc, pas étonnant que la tendance de la musique des chansons et du style de la mode préférés par les citoyens de Suriname sont orientés vers Java, en Indonésie. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Didi Kempot intitulées Orchidée et L'histoire d'une hôtesse. Bonne écoute et au revoir.
Chers juridis auditeurs de la voix de l'Indonésie Menangtiara, vous avez écouté tout à l'heure tout le programme de la voix de l'Indonésie, édition de mardi. Merci de votre attention. Vos équipes de ce soir, Mama Suartono, Kartika et Mesaro, vous disons bonsoir, rendez-vous demain, même heure et même fréquence. A bientôt, au revoir, sampai jumpa.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.